Mike Castel Oriental. J'ai réfuté totalement cette
histoire. Moi, c'est sûr que vous combattiez au Cassandra. Je pense qu'on peut, en combinant les deux statuts de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Voilà, il faut qu'on remercie de votre fidélité à Radio Okapi et bienvenue dans Parole aux auditeurs qui vous proposent ce nouveau numéro. Le gouvernement congolais a décidé la semaine dernière, au cours d'un conseil des ministres, de suspendre les importations du ciment, des barres de fer et du sucre pendant 3 mois sur toute l'étendue de la République. Le gouvernement entend ainsi, par cette mesure, valoriser la production locale. Certains observateurs jugent fondée cette démarche du gouvernement. Une autre opinion, par contre, estime que cette décision risque de pénaliser les opérateurs économiques ainsi que les consommateurs au regard de la faible production locale de ce produit de première nécessité. Alors, comment analysez-vous cette décision? À l'adresse pa@radiocafi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 6315 pour votre intervention en direct. André Mongou est à la mise en onde, Pierrot Lamegi est à la réalisation et au standard de ce programme, coordonné et présenté par J.R. Lugembo sous la supervision de Martin Estebou Jangoué. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lugembo.
Voilà, vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages sur notre page Facebook. Nous allons découvrir ces messages d'un moment à l'autre. Nous avons le temps de dire merci à Marlène Candolo qui a dit « Très bonne décision, il nous faut valoriser la sucrerie des Kiliba au sud Kivu, la cimenterie de Katana au sud Kivu également, la cimenterie des Kabimba. Nous devrions apprendre à produire au lieu de dépendre toujours de l'extérieur. C'est une mesure qui ne sera pas bien accueillie par les opérateurs économiques qui s'enrichissent derrière la négligence du gouvernement qui vient cette fois-ci de se réveiller. Alors la valorisation de ce secteur occasionnera aussi la création des emplois. Serge Lino Louboya, nous de la diaspora congolaise en Angola, nous sommes contre cette décision car il faut qu'il y ait une concurrence sur les marchés, car comment expliquer que les produits importés coûtent moins cher que les produits locaux, donc ces entreprises doivent revoir les prix de leurs produits, que le gouvernement puisse avoir, savoir comment garantir la vie de la population. Christère Mputu, je soutiens l'idée de valoriser nos produits, mais je pense qu'avant de prendre une telle mesure, il fallait d'abord se rassurer que ces derniers seront au profit des Congolais du point de vue prix et qualité, car le grand problème ne réside pas seulement à l'importation, étant donné que nous avons aussi les ciments de bonne qualité, c'est plutôt les prix élevés à cause des taxes et les profits que tirent la plupart des membres des gouvernements et autres autorités du pays à l'importation. Voilà le vrai problème. Merci à vous tous qui nous avez écrit. Nous recevons dans ce studio le professeur Grégoire Bakandeja, expert en finances publiques, et il est en même temps membre de l'Institut Héros Africain de droit économique, alors qui était d'ailleurs le confrère de Michel Rocard, qui vient d'ailleurs de nous quitter. Nous en parlerons tout au long de cette émission. Alors, professeur, merci d'être venu et surtout d'avoir accepté d'échanger avec les auditeurs de manière citoyenne.
Merci, M. Gérard.
Voilà, alors, d'entrée de jeu, que vous inspire cette décision du gouvernement?
D'abord, la première chose que je dois dire, c'est que dans tout pays, des mesures peuvent être prises par un gouvernement pour protéger l'industrie nationale contre la concurrence déloyale, et principalement qui concerne les importations de certains produits à l'extérieur. Donc, quelle que soit la zone économique dans laquelle on se trouve, que ce soit la zone de libre-échange ou une communauté économique régionale, il est permis à un pays de prendre des mesures soit pour interdire, soit pour entraver l'entrée de certains produits sur son territoire. Et tout cela se fait après une étude bien menée, réfléchie, parce qu'il y a des effets positifs, mais aussi des effets collatéraux, des effets boomerang d'une telle mesure.
Voilà. Alors là, nous tombons, on est tous d'accord, nous avons lu en tout cas les internautes, dans la plupart des cas, ils parlent du protectionnisme économique qui a certainement des avantages et des inconvénients. Alors, aujourd'hui, avec une telle mesure, qu'est-ce qu'on peut, on peut s'attendre à quoi exactement en ce qui concerne les avantages que doit tirer le gouvernement congolais et les désavantages, parce que d'aucuns parlent déjà de l'impact que cela aura par rapport aux consommateurs et par rapport aujourd'hui aux opérateurs économiques.
Donc, il faut partir des statistiques du commerce extérieur en partant de la balance commerciale. Un pays doit avoir une balance commerciale équilibrée. Lorsque le pays importe plus qu'il n'exporte, il y a des risques sérieux, il y a des risques financiers. Risques financiers par rapport aux rentrées de recettes. Risque aussi de voir certaines entreprises qui sont concurrencées loyalement disparaître. Et si les entreprises disparaissent, ce sont les emplois que l'on perd. Et ces emplois perdus ont des conséquences sur le quotidien des Congolais. Donc, et les pertes financières, ça se calcule en termes de milliards. Alors, la situation du Congo est un peu complexe. Pourquoi? Du fait, notamment, et principalement, de la porosité de nos frontières. Vous savez que nous avons des produits qui viennent de partout, et ces produits rentrent sur le territoire sans payer des taxes, ce qui contribue à la diminution de leur prix sur le marché.
Tout à fait.
Les produits fabriqués localement étant chers à cause des coûts financiers. Vous avez les coûts d'exploitation pour ces entreprises. Alors, si on ne fait pas attention, il faut équilibrer. Si on ne fait pas attention, on risque d'arriver à une situation où le pays devient un dépotoir. Dépotoir où tout le monde peut déverser des produits et ça appauvrit le pays par rapport à l'étranger. Ça, il faut que les gens aient conscience de cela. Donc, la première démarche à faire pour atténuer les effets collatéraux d'une telle mesure, c'est de s'organiser au plan local pour que tous les réseaux qui sont connus, et je constate même que les observateurs connaissent tous ces réseaux, les réseaux des personnes qui interviennent, vous avez les douaniers, vous avez les amis de la DGI, de l'OCC, tous ces intervenants-là, et même les opérateurs, les distributeurs, les importateurs eux-mêmes qui organisent des circuits de fraude. Alors, il faut donc, au plan interne, prendre des mesures pour décourager tous ceux qui pratiquent ce genre d'opération. Je ne vais pas qualifier. Et certains sont connus. Alors, mais les conséquences négatives, c'est que vous avez dans le pays des importateurs. S'ils ont importé qu'une telle mesure est prise, certains produits qui ne sont pas encore entrés sur le territoire national vont subir des coûts à l'extérieur. Ce qu'on appelle les surestagies des coûts liés au fait que les marchés ne rentrent en port. Si ça coûte dans un port étranger, il faudra payer les droits de transit. Et tant que les produits ne sont pas enlevés, l'opérateur va contribuer au paiement des taxes dans les pays concernés. Les distributeurs aussi, qui peuvent organiser les circuits de vente parallèles, etc. Donc, c'est une mesure qui est salutaire pour l'industrie locale, mais à la condition qu'au niveau local, les entreprises concernées fassent un effort, non seulement pour améliorer la qualité des produits qui sont offerts au public, mais aussi tenir compte de la demande. Donc, dans le pays, il faut d'abord qu'on connaisse le volume en valeur des importations par rapport aux exportations, ce qui permet de prendre des mesures en tenant compte des intérêts des uns et des autres, et ça doit se faire par concertation avec les opérateurs économiques. Et généralement, dans les pays qui connaissent ce genre de problème, c'est toujours par la collaboration et coopération avec le secteur privé à travers les organisations patronales.
Alors, lorsque vous évoquez la balance commerciale qui doit être équilibrée, aujourd'hui, c'est vrai, c'est un constat et c'est une réalité. Lorsque notre pays, la RDC, importe plus qu'elle exporte, alors c'est déjà un danger. Une telle décision, elle ne peut pas être salutaire, j'imagine.
Mais il faut renverser la tendance parce que, vous voyez, si on laisse le pays importer tel qu'on le fait là pour tous les produits, mais vous voyez la situation dans laquelle nous nous trouvons. Tous les produits, même ceux qui viennent, qui sont concernés, coûtent plus cher au Congo qu'ailleurs. Tous ces produits-là.
Mais c'est la production locale. Parce qu'aujourd'hui, si nous présentons, disons, sur le même tableau, Sina, Tessilou, mis ensemble, la production ne peut pas faire face à la demande actuellement.
Oui, mais il y a des mesures, on ne peut pas.
Pour ne prendre que le cas d'abord du ciment avant d'aller là le sucré et puis.
Le principe est le suivant, l'interdiction ne peut pas être définitive, l'interdiction est toujours temporaire. Le temps de permettre aux entreprises locales de s'organiser. Alors, lorsque le stock au niveau national est insuffisant, où il est suffisant, on peut prendre des mesures, par exemple, l'imposition des quotas. Les quotas pour le surplus. Si à l'intérieur, il y a suffisamment du ciment ou du sucre, on peut se dire, on va limiter les quotas d'importation. Mais pour limiter les quotas d'importation, il faut se baser sur des structures locales chargées de contrôle. Alors, le problème que nous avons au Congo, c'est le problème de contrôler. Vous avez par exemple des frontières où tout entre par plusieurs voies. Et ça c'est un travail qui doit encore se faire. Nous avons plus de 2000 kilomètres de frontières avec les voisins. Nous devons contrôler ça en mettant un peu plus de responsabilité dans tout ça. Alors, par le système de quotas, on peut éventuellement trouver une solution. Il y a aussi, au plan tarifaire, des mécanismes qui peuvent être mis en place par les contingences tarifaires qui font que lorsqu'il n'y a pas suffisamment de produits localement, on peut autoriser l'entrée des produits en diminuant, par exemple, certains droits d'entrée. À ce moment-là, on résolverait le problème. Mais il ne faut pas que les Congolais aient à l'esprit que tout ce qui vient de l'extérieur doit entrer librement au Congo. Nous risquons de faire de ce territoire, et je perds même le mot, un dépotoir où tout le monde déverse des produits dont la qualité n'est pas toujours garantie.
Merci beaucoup, professeur Grégoire Bacan. Déjà, on va vous retrouver d'un moment à l'autre, le temps de rouvrir, d'ouvrir le standard afin d'accueillir les auditeurs qui ont souhaité depuis le début donc, de participer à cette émission 081-890-63-15 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Parole aux auditeurs.
Merci de nous rejoindre. Bruno, vous êtes à Sikapa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Pierrot.
Voilà, Bruno, vous avez suivi le professeur tout à l'heure qui a parlé de la réalité de notre pays en évoquant, bien entendu, les avantages et les inconvénients et surtout les mots qu'il a utilisés, les faits boomerang par rapport à une telle décision. Aujourd'hui, est-ce que vous estimez, comme les autres observateurs, qu'effectivement, cela aura un impact négatif sur les consommateurs et également sur les opérateurs économiques?
Oui, merci pour l'occasion que vous nous donnez d'intervenir dans votre émission. Je suis, comme les autres auditeurs, opposé à cette mesure dans le sens où elle ne va pas rencontrer l'intérêt de la population. En tant que gouvernement, le gouvernement de la République doit prendre des décisions qui vont dans le sens de l'intérêt de la population. Ce sont des mesures qui, si elles sont prises dans d'autres pays, emmènent le peuple dans la rue. Pourquoi je le dis? Pour ne parler que du ciment, sachant que la production de la filou est d'à peu près 500 000 tonnes par an, et que les besoins du Congo sont évalués à peu près 3 millions de tonnes. Cette différence-là, comment l'État va faire pour la couvrir? Ça, c'est la première question que je me pose. On dit que cette mesure-là ne va durer que 3 mois. Le temps que la CILU ou les compagnies nationales s'organisent. Mais elles ont largement eu le temps de s'organiser. elles ont largement eu le temps de s'organiser, elles l'ont pas fait. C'est qu'à la CIMO et aux autres compagnies nationales de France 2020 qui vont rendre leurs produits compétitifs par rapport aux produits importés. Comment voulez-vous en effet que moi je suis à Chicapa, je suis à 105 km de la frontière de l'Angola. Nous achetons le ciment rendu à la frontière à 5 $. Il nous revient à Chicapa autour de 20 $ après les paiements des frais de douane et autres frais, etc. Mais pour qui vient de Kinshasa, à peu près 1200 km, nous coûte ici 40 $, et voire, à certains moments, il arrive jusqu'à 50 et pourquoi pas 60 $ quand il y a situation de crise. Voilà. Donc, le consommateur que je suis ne trouve aucun intérêt dans cette mesure. Quand on sait qu'avec le démembrement, les nouvelles provinces sont en construction, et quand on sait aussi qu'il est généralement admis que l'immobilier est un des baromètres de l'économie d'un pays. Nous avons l'impression que l'immobilier est en train de se porter mieux, donc l'économie se porte mieux. Mais je crois, va tirer l'économie vers le bas. Parce qu'on va obliger certaines zones du pays à consommer un produit qui va coûter trop cher et qui va prendre beaucoup de temps pour lui parvenir, etc. Donc je m'oppose à cette mesure. Je voudrais terminer en disant que cette mesure qui dit qu'on ne prendra que 3 mois. Mais moi, je vous assure qu'à moins de 2 mois, nous allons constater la rareté de tous ces produits sur le marché et la surenchère va revenir. Et finalement, on aura l'effet contraire à celui qui avait été escompté au départ dans la prise de cette mesure, qui, à mon avis, va à l'encontre de la révolution de la modernité donnée par le chef de l'État. Voilà.
Merci beaucoup Bruno. Si je comprends bien, vous vous opposez à cette mesure qui, selon vous, va à l'encontre, disons, justement, de l'intérêt de la population. Vous l'avez expliqué en quelques mots, en montrant noir sur blanc que d'ailleurs la production, la capacité de production au niveau des silos qui n'arrive pas à faire face aux besoins réellement en ciment en République démocratique du Congo qui s'évalue aujourd'hui autour de 3 millions de tonnes. Alors donc, ce sera difficile pour l'entreprise Silou de faire la différence, même si on lui accordait plus de temps, plus de 3 mois, elle n'arriverait pas à combler ses vides. D'ailleurs, vous n'avez même pas parlé de Silas, qui passe en tout cas des difficultés énormes. Mais alors pour vous, donc cette mesure, déjà dans 2 mois, on sentira la rareté de ce produit, de ce produit sur les taux de toute l'étendue de la République. Et vous avez expliqué cela par un simple exemple, hein, disant que vous qui êtes dans les pays, disons dans les provinces un peu frontalières, à l'Angola, vous achetez le produit de l'Angola à 5 $ et vous avez la facilité par rapport à ce boom immobilier de faire face à toutes ces demandes. Mais le produit qui arrive de Kinshasa, notamment, en tout cas des silos, est vendu très cher à Chicapa notamment. Alors donc, les consommateurs ne trouvera pas aucun intérêt à cette mesure et par rapport à ces boom immobiliers. Merci beaucoup, Bruno. Bienvenue, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, JR, et bonjour à notre invité, et aussi bonjour à tous les auditeurs de la Radio Catholique.
Quel est votre avis? Bienvenue, vous avez suivi Bruno, qui s'oppose à cette décision en disant que déjà la capacité de production de ces loups ne pourrait pas, disons, on ne sera pas en mesure de renverser la tendance aujourd'hui, même si on accordait un peu plus de temps à cette entreprise de fonctionner.
Merci bien, merci JR. J'ai suivi M. Bruno, ce qu'il a dit là, c'est tout à fait correct. Il parle aussi en tant que consommateur. Mon intervention aussi, c'est en tant que consommateur. Je prends juste, je ne suis pas technicien en économie, mais je ne voudrais pas parler d'une façon terre à terre. M. Bruno venait de parler des problèmes de ce que si vous puissiez organiser, ainsi de suite. La mesure prise par notre autorité, par notre gouvernement, nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas contredire cette mesure-là. Mais nous devons, l'autorité doit aussi penser, chaque fois qu'elle doit prendre une décision, avoir la réalité. Parce que la mesure prise en est une autre, la réalité en est aussi une autre. C'est-à-dire quoi, JR? Ici, sur place, je suis à Lubumbashi. Nous achetons les ciments à Kasumbalesa ou en Zambie, c'est à 5 $. D'ailleurs, généralement, c'était 4.5 $. Aujourd'hui, c'est 5 $. Aujourd'hui, à Lubumbashi, au moment où je vous parle, le ciment, un sac de ciment est vendu en dollars, c'est au moins 8 dollars par sac à Lubumbashi. Regardez le transport, le manutention, tout, mais le revendeur ici à Lubumbashi, il revend un sac de ciment à 8000 francs congolais. Moi, je pense, le ministre qui a signé, il devait d'abord chercher la réalité. Qu'est-ce qui fait que les Congolais puissent aller d'abord importer? Qu'est-ce qui encourage les Congolais d'importer? Ce qui encourage les Congolais d'importer, c'est parce que nos produits locaux coûtent plus cher qu'un produit importé. Ce n'est pas la première fois d'hier qu'on puisse prendre cette mesure. Je peux vous rappeler que dernièrement, il y avait un ministre qui avait signé un arrêté interdisant la vente d'Espagne importée. C'était le même problème, que l'Espagne importée coûtait moins cher qu'un pagne produit localement. C'est bien d'encourager les industries locales. Oui, c'est bien beau. Mais le problème, c'est là. Le gouvernement devait travailler sur le prix, les coûts. Je peux vous donner un autre exemple. Il y avait une entreprise qui fabriquait les maïs. Ce sont des laits comme des bruits qui se vendaient en boîte à Lubumbashi. Mm-hmm. On avait ouvert cette entreprise ici, à Kitanga, ici. Mm-hmm. Mais les produits qu'on devait importer, le même produit importé à Kasumbari, à Zambie, on les vendait à 400 francs. Mais ce qui était produit à moins de 5 km de la ville de Lubumbashi, à Kitanga, mais qui était vendu à 600 francs. Est-ce que pensez-vous que réellement l'importateur peut accepter d'aller acheter, d'être revendeur d'une entreprise locale qui vend les produits à plus cher? C'est ça aussi le problème. Mais je peux aller encore plus loin. Ce sont les mêmes problèmes. Dernièrement, nous avons souffert ici à Lubumbashi à cause de la farine. Nous avons à Lubumbashi ici une grande minoterie. D'ailleurs, on est en train de dire, parmi les minoteries dans l'Afrique centrale, c'est une grande minoterie. Mais aujourd'hui, cette minoterie avait même fait que quand un client va chercher la farine chez cette minoterie-là, on amène ça chez lui sans transport. Il achète, on l'amène chez lui sans transport. C'était toujours plus cher que quelqu'un qui importait la farine de la Zambie. Oui. Est-ce que c'est ça ce que nous devons faire? Est-ce qu'il fallait directement prendre cette mesure? Non.
Oui,
on doit la prendre en tenant compte de la vie de la population.
Est-ce que bienvenue, vous avez pratiquement les mêmes inquiétudes comme vos prédécesseurs et également ceux qui ont envoyé des messages sur notre page Facebook lorsqu'ils estiment que la cimenterie de Lukala, aujourd'hui Silou, a pratiquement des problèmes et aujourd'hui fait face à plusieurs difficultés et ne fonctionne pas à plein régime. C'est vraiment le fonctionnement est autour de 50% selon certaines analyses et la situation d'ailleurs c'est encore pire. Donc cette décision, c'est comme un coup de paix dans l'eau, quoi. Est-ce que vous estimez comme vos prédécesseurs?
Exactement, Miguel. Exactement. C'est ce qui m'encourage à ne pas soutenir cette mesure parce que cette mesure va encore davantage faire souffrir la population.
Merci beaucoup, bienvenue d'avoir appelé de Lubumbashi. Elie, vous êtes à Bandaka, mais je sais que vous bienvenue, il n'y a pas à critiquer certes la mesure, mais il faudrait voir la réalité en face. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, toutes les décisions prises, c'est des décisions qui sont prises pas à l'avantage du consommateur. Elie, vous êtes à Bandaka, bonjour et bienvenue.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'invité, bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio Capri.
Quel est votre avis, Yéli?
Oui, monsieur le journaliste, cette décision du gouvernement n'est pas productive, car elle ne va pas donner de bons rendements que le gouvernement envisage, celui de la valorisation des produits locaux. Le gouvernement devrait plutôt davantage se faire un état corporatif. Si l'opérateur économique importe des coûts de motifs, notamment le faible coût à l'étranger et la bonne qualité des produits. Ainsi, le gouvernement devrait d'abord perfectionner la qualité, le volume et abaisser le prix d'un produit en question et enfin hausser le prix d'un port de 10 produits. Et bien, monsieur le journaliste, agir autrement, ce serait empiéter les principes du libéralisme économique et installer l'économie socialiste. C'est-à-dire quoi? Monsieur le journaliste, le fait de prendre des paroles de décision de prendre de pareilles mesures, ça ne permet pas à notre économie de s'élargir. C'est-à-dire, on est porté d'assister à une forme d'une économie autarcique. On se ferme par rapport aux pays étrangers, aux pays frontaliers.
Merci beaucoup, Elie. Vous avez rejoint pratiquement vos prédécesseurs en évoquant, bien entendu, cette notion de libéralisme économique. Nous verrons avec Serge qui nous a rejoint déjà de l'Angola. Serge, vous êtes à Soyo, bonjour.
Oui, bonjour, Roger.
Quel est votre avis, Serge?
Oui, cette décision-là, nous la trouvons un peu trop compliquée. Quand le ministre nous dit que non, ça favorise la fraude. Mais les gens là qui travaillent au niveau des frontières là, les services là de l'économie, les finances, tout ça, ce sont ceux qui favorisent les fraudes. Tout le gouvernement devait commencer par punir ou sanctionner ceux qui travaillent là à son compte et non aller prendre des mesures qui vont faire souffrir la population. Vous savez, les produits c'est tout le monde qui les fait coûte moins cher par rapport aux produits locaux. Mais vous dire, est-ce que vous savez quelles sont les difficultés que rencontrent ces importateurs au niveau de nos frontières? Pour faire passer quelque chose au niveau de nos frontières, c'est tout un problème. Alors, ces gens-là, ce sont eux qui sont à la base de ces fraudes. Nous, le gouvernement devait commencer à finir d'abord ces personnes, donc ces services-là qui travaillent là, vous devez prendre cette décision. Parce que vous savez, aujourd'hui, comme nous le savons très bien, l'unique travail qui est resté au pays, c'est le commerce. Donc chacun cherche à tous les moyens pour subvenir à ses besoins, pour sauver sa famille. Alors, c'est la raison pour laquelle tout le monde se jette dans le commerce. Alors maintenant, interdire l'importation de ces produits. Et maintenant, quels sont les législateurs par le gouvernement pendant toute cette période que les gens là vont rester à la maison, sans rien faire? Quelles sont les mesures que le gouvernement a prises pour combler tous ces besoins?
Merci Serge d'avoir appelé de Soyo en Angola, 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Nous parlons au cours de cette émission, parole aux auditeurs, de la décision prise par le gouvernement de suspendre donc les importations du ciment, des barres de fer et du sucre pendant 3 mois sur toute l'étendue de la République. Alors certains observateurs jugent fondée cette démarche du gouvernement. Une autre opinion estime plutôt que cette décision risque de pénaliser les opérateurs économiques ainsi que les consommateurs au regard de la faible production locale de ce produit de première nécessité.
C'est parce que Radio Capéine et le Congo que vous êtes concernés par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Voilà, il faut encore merci de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Nous avons, suivi religieusement l'intervention de Bruno, qui a évoqué pratiquement la capacité faible de production au niveau des silos, qui ne saura pas faire face aux besoins actuels. Bienvenue de Lubumbashi a insisté sur les réalités actuelles des services de l'État qui occasionnent de la fraude. Et aujourd'hui, c'est une façon de décourager en fait les opérateurs économiques qui aident tant soit peu les consommateurs à se retrouver par rapport à l'achat ou encore à moindre coût de tous ces produits. La vente il a parlé Elie de Mbandaka, évoque également le libéralisme économique. Il a été complété par Serge qui a évoqué également des cas de sanctions. Professeur, vous avez suivi les uns les autres. Alors, quelle est l'orientation que vous donnez après avoir suivi les uns les autres?
Monsieur Gilles, je comprends bien les préoccupations des auditeurs, mais je voudrais ici qu'on réfléchisse froidement. Alors, réfléchir froidement, c'est se baser à la fois sur les réalités, mais aussi voir comment une économie fonctionne dans le monde. Mmh. Alors, un pays s'enrichit par le travail et la capacité productive de l'ensemble de la société. Donc, on ne peut pas développer un pays avec le commerce. Et aujourd'hui, mais, tout le monde parle de l'émergence. L'émergence se traduit en quelques termes, ça veut dire investir, ça veut dire innover, ça veut dire inciter et ça veut dire inclure. Pour que le Congo participe à cette mondialisation qui est caractérisée par la stratégie de l'émergence, mais il faut que le pays échange aussi. Le pays ne peut échanger que par la production interne visant aussi à l'exportation, parce que c'est à partir de fonds provenant de l'exportation que le budget de l'État peut être alimenté et répondre à l'amélioration des conditions de vie des populations. Il faut que les gens se mettent ça en tête, que le pays ne peut pas se développer avec cette économie qu'on appelle une économie souterraine, une économie populaire. L'économie populaire qui n'est pas fiscalisée est un frein pour le développement d'un pays. Je comprends que l'on puisse se plaindre. Je crois que je vous ai parlé des effets boomerang, des mesures pour les distributeurs, pour les importateurs, etc. Mais c'est une mesure provisoire. Une mesure provisoire, c'est une mesure qui n'est pas destinée à durer. Alors, lorsqu'on parle de l'organisation qu'il faut avoir au niveau des entreprises, mais l'organisation au niveau des entreprises concernées par la mesure, c'est de les voir innover, c'est-à-dire investir pour augmenter les capacités de production. Nous n'allons pas nous en sortir avec ce que nous voyons au Congo. Il faut produire meilleure qualité pour que ce produit soit concurrentiel et que nous participons aussi à cette mondialisation. On ne peut pas être un pays dépotoir. Donc voilà pourquoi je soutiens en partie la mesure, parce que même dans les économies libéralisées, on peut prendre des mesures de sauvegarde. D'ailleurs, l'Organisation mondiale du commerce prévoit qu'un État peut, pour des raisons de sécurité intérieure, protéger son industrie locale et essayer, par exemple, en rapport avec les pays voisins, comment on peut résoudre ce problème par une coopération plus active pour que ceux qui participent à ces échanges respectent les règles du jeu. Or, vous voyez qu'il y a une faiblesse au Congo parce que les produits en sécurité nationale, avec tout ce qu'on a comme système mafieux, je suis tout à fait d'accord avec notre ami Elie de Madagascar, comme notre ami Serge de Soyo, qui insiste sur les sanctions. Rarement des sanctions sont prises contre les agents de l'État qui se livrent à ce genre d'exercice, contraire aux intérêts de la République, les intérêts des consommateurs. Alors, un autre élément qu'il faut prendre en considération, et je suis tout à fait d'accord avec eux, c'est les coûts prohibitifs des produits qui sont fabriqués localement, c'est à travers la fiscalité. Donc il faut revoir en interne certaines mesures d'ordre fiscal pour éviter qu'il y ait une duplication.
Mais professeur, la lutte pour une économie fiscalisée en République démocratique du Congo ne date pas d'aujourd'hui. On sait tout de même qu'au jour d'aujourd'hui, l'informel a pris une place importante en train dans l'économie congolaise. Alors, même pour arriver à renverser la tendance, il faudrait quand même un temps, tout un processus. Il faut un temps et il faut des mesures durables.
Mais vous savez, en dehors de l'informel, il y a aussi au niveau de l'administration cette multiplication d'impositions. Vous avez des impôts nationaux, vous avez des impôts locaux, et puis vous avez des impôts provinciaux. Et avec, d'ailleurs, la décentralisation actuelle, les nouvelles provinces, par exemple, cherchent des recettes, etc., multiplient des taxes qui sont lourdement supportées par les entreprises. Et quand les entreprises payent les taxes à ces structures, elles répercutent ça sur le dos de la population. Bon, voilà pourquoi il faut revoir le système d'imposition et éventuellement prévoir une défiscalisation de certains impôts ou la diminution des impôts pour que ça ne soit pas supporté par la population, parce qu'un opérateur économique ne perd presque pas, et l'opérateur économique qui paye, même en fraude à des agents administratifs, il répète ça sur les prix. Donc vous voyez qu'il y a tout un travail qui doit être fait, c'est la raison pour laquelle une telle mesure, je vous ai dit, doit être concertée entre plusieurs ministères. Vous avez le ministère de l'économie, vous avez le ministère du commerce, vous avez le ministère des finances, vous avez le ministère de l'industrie. Ça doit être un travail, et je pense que cela doit avoir été fait pour qu'on arrive à une telle décision, mais puisqu'elle est provisoire, c'est le temps que l'on s'organise et qu'on impose
à l'échéance 3 mois après, et que le même constat parce que c'est que déjà il y aura des problèmes de la fraude, nous l'avons évoqué. Trois mois après, s'il n'y a pas un changement, quel doit être le comportement du gouvernement?
Mais le gouvernement doit certainement sanctionner les fraudeurs. Et ces fraudeurs se recrutent partout. Parce que les gens pensent que les fraudeurs sont seulement au sein du gouvernement. Il y a même des agents économiques et les chefs d'entreprise qui participent à la fraude. Et ça, c'est un manque à gagner pour le pays. S'il y a un manque à gagner pour le pays, la population ne va pas se retrouver. Donc, il y a un travail de fond qui doit être fait. Il faut évaluer, peut-être après un mois, on peut évaluer pour savoir.
De la ici au pays, parce que des gens qui ont déjà les ciments ou encore les sucres, il y aura un effet d'attentisme.
Oui, mais c'est là où on voit l'importance du rôle de contrôle. À ce moment-là, puisque quand on dit l'économie libérale, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas à ce moment prendre des mesures dirigistes pour voir au niveau des distributeurs comment ça se fait l'opération au niveau des distributeurs. Parce que c'est là où il y a des problèmes. Les distributeurs, il y en a qui vont commencer à contingenter les stocks qu'ils ont, vendre à des personnes qui, à cause du monde pétrolier, puisqu'il y a des problèmes,
qui vont fixer,
la spéculation, on voit ça dans tous les domaines. On voit dans tous les domaines.
Voilà, alors, donc vous avez parlé, pour sortir pratiquement de cette situation, il faut un système d'imposition qui va tenir compte de la défiscalisation de certains impôts. Alors, on va voir avec Koutou qui est à Riwara, lui, à Louboudi, et Maître Maraki Chata. Alors, Koutou, vous êtes avec nous à Riwara. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Radio Papi. Bonjour, Lévi.
Quel est votre avis, Koutou, après avoir suivi les uns les autres et aussi l'orientation que vient de donner le professeur Grégoire Bakandeja?
Bon, je ne suis pas du même chose de ce que de l'arrêté des ministres suspendant l'exportation des produits, de ces produits-là. Et c'est ce qui m'a posé de poser la question, j'aimerais poser la question à notre invité de savoir si cette mesure concerne toutes les provinces, à ces autres, la province de la jeune province de Ituri et même notre province voisine de Haute-Ouest, parce que chez nous, nous n'avons même pas une matériel, soit que d'autres de usines pour nous faciliter à produire le matériau et le matériel de construction. Or, parce que ici à la frontière, nous dépendons carrément, à 100%, nous dépendons des produits provenant de l'Ouganda qui amènent même ces produits-là, même jusqu'à la porte. Alors, j'aimerais savoir, parce que si ça prend toutes les familles des territoires nationaux, alors, chez nous, un paquet de ciment varie de 12 à 14, voire 15 dollars. Si maintenant, si on a le cas, il faut parvenir, le ciment de Chili, maintenant, et le transport, les manutentions, ça va nous coûter encore plus, ça va nous devoir 20, 30, 40 dollars, c'est que j'imagine. Or, il y avait aussi de telles mesures étaient prises par d'autres services, tels que, entre autres, on a les émissions de produits alcoolisés. Même le contraire était vrai, qu'il y avait une mesure aussi qui a exonéré l'importation de matériel et de matériaux de construction. Alors, de là, je me vois comme s'il y a une contradiction dans cette décision-là. Et l'importance de ces produits-là, mettons aussi, gagne aussi cet accès à l'importation au niveau de la frontière. Alors, c'est ça ce qui me met un peu dans la confusion. Si notre invité pouvait nous donner
quelques précisions. Merci beaucoup. Là, vous inquiétez de l'absence, en fait, de l'industrie locale, hein, qui n'est pas très représentative, surtout dans votre coin, dans la partie, dans cette partie du pays. Vous craignez qu'aujourd'hui, cela puisse avoir un effet un peu négatif, comme l'a dit d'ailleurs notre invité tout à l'heure, elle était boomerang sur les consommateurs que vous êtes, parce que vous dépendez dans la plupart des cas de pays voisins. Merci beaucoup. En ce qui concerne notamment donc de ciment, mais il y a également le produit tel que le sucre et aussi les barres de fer qui accompagnent en fait cette boom immobilier. Voilà, merci beaucoup. Et là, déjà, ça nous renvoie à cette problématique de la compétence exclusive des provinces. Est-ce qu'il n'y aura pas un impact aussi aujourd'hui avec les taxes et les impôts qui sont demandés dans le cadre de la décentralisation? Est-ce que les provinces ou les nouvelles provinces, comme l'a dit les professeurs, ne vont-elles pas profiter pour, en fait, se charger encore les opérateurs économiques? Merci beaucoup. Alors, lui, vous êtes à Louboudi et Maître Omar Akichata. Lui, vous êtes avec nous. Bonjour. Lui, vous êtes à l'Oboudi, bonjour. Voilà, on a des petits soucis, on va prendre d'abord Maître Omar qui est à Kinshasa. Maître Omar, bonjour et bienvenue, la parole aux auditeurs.
Hier et bon début de week-end à vous et à monsieur l'invité.
Voilà, merci beaucoup. Nous sommes en début de semaine, ça va être mal. Je crois que le week-end était un peu long par rapport à vous. Alors, quel est votre avis, Maître Omar?
Merci beaucoup, J.A. Duverbe. En principe, je devais m'éteindre parce que celui qui est dans votre plateau était un grand maître pour nous. Mais puisque le verbe est important pour juriste, une fois qu'on l'a, on peut mieux le partager. Je pense, J.A., moi, à mon avis, c'est ma première manche d'intervention. Je pense que tout va de l'interventionnisme étatique. Dans un État aujourd'hui, avec la modernisation, l'État intervient dans le secteur économique dans deux segments, soit comme entrepreneur, soit comme régulateur. Et je pense qu'en tant que régulateur du secteur économique dans la nation, l'État a donc l'obligation et le devoir de prendre des mesures pour sauvegarder cette économie. Et du point de vue, moi, je pense que ça ne pose pas problème parce que l'État n'a fait qu'agir et s'est comporté comme régulateur tel qu'elle voudrait la logique économique. Mais là où les blablés gèrent l'inquiétude, c'est que dans un état de droit, les décisions qui sont prises par l'autorité doivent être dans l'intérêt de la population. Aujourd'hui, l'impact, vous l'avez démontré, est vraiment non négligeable. En ce sens que, à ce jour, au niveau interne, le climat n'est pas produit. Il y a un besoin réel. L'État est là pour rendre service à la nation. Il ne peut pas prendre de mesures et rendre pas service à la nation. Deuxièmement, c'est ma deuxième intervention. Je pense que cette mesure doit interpeller tout le monde. Et l'État qui doit, pas se limiter à un régulateur, mais aussi entrepreneur, comme je l'ai dit au début, qui doit renforcer les capacités au niveau interne de la production et aussi le privé. Parce que le professeur l'a dit, le développement économique n'est pas seulement la cause de l'État, c'est aussi la cause du privé. Et en développement, on dit développement égale production plus investissement. C'est une question d'interpellation nationale. En fait, aujourd'hui, on a pris une mesure qui handicape, qui a des conséquences très fâcheuses. Il faut que ça interpelle l'État qui ne doit pas se limiter à prendre des mesures, mais aussi à intervenir en tant qu'entrepreneur. Et nous, privés qui avons des moyens, préférons garder nos moyens à l'étranger. Et j'ai fini par dire hier, la mesure a été économiquement fondée, mais nous l'avons dit pour finir que la mesure ne doit être prise que pour l'intérêt de la nation. Il faut qu'on prenne des mesures maintenant idoines pour sauvegarder ce que nous vivons. Premièrement, moi je pense que comme ça relance les débats sur la problématique de la production locale, il faudra renforcer les capacités au niveau interne. Nous avons la TINAC, la TILU, et il faudra maintenant pas se limiter à prendre des mesures mais aussi à produire. Deuxièmement, il y a des privés qui ont des belles initiatives à produire. Il y a des institutions qui veulent intervenir. Les lois ont été prises. Mais si au niveau interne, il y a encore des couacs, il y a encore des vicissitudes qui empêchent la production locale, on fera toujours volte-face. Il faut, comme l'a dit le professeur, faire l'allègement fiscal. Il faut défiscaliser certaines choses. Il faut aussi arranger les problèmes au niveau de la douane. Je pense que ça pourrait soutenir l'initiative privée.
Oui, Omar, je crois que certains observateurs l'ont dit, les moments ne s'y prêtent pas. Aujourd'hui, dans le cadre de la décentralisation, il y a des provinces qui sont démembrées, des provinces qui sont extrêmement pauvres. En tout cas, ça, il faut pas se le voiler la face. Aujourd'hui, avec les compétences exclusives des provinces, je crois que toutes les nouvelles provinces sont à la quête de l'argent pour financer certains projets de développement. Est-ce que vous ne craignez pas, comme les autres, qu'aujourd'hui, cela retombe sur les opérateurs économiques et cela puisse avoir des effets sur les consommateurs?
Oui, nous l'avons dit, je crois, la fois dernière, que le souci dans un état des droits, c'est de protéger les consommateurs. Vu l'état dans lequel évoluent aujourd'hui les provinces, nous l'avons dit, il y a un impact, c'est sérieux. Mais la solution serait, comme nous l'avons dit premièrement, il faudra, quand cette mesure est provisoire, revenir à la bonne raison, autoriser de nouveau les importations en assainissant les frontières. Les deux, ça c'est des délais différents, c'est-à-dire à la loi de façon lointaine. Il faudra maintenant penser à comment financer, n'est-ce pas, au niveau local, l'importation du climat. Le besoin est énorme, nous l'avons dit. Il faudra maintenant adapter les mesures par rapport à la situation actuelle. C'est-à-dire quoi? Comme la mesure est provisoire, comme on n'est pas encore en mesure financièrement de financer, excusez-moi la redondance, la production locale, il faudra réautoriser les productions au niveau des importations. Mais à la longue, puisque nous voulons être économiquement souverains, il faudra penser à une production qui passe, n'est-ce pas, par la défiscalisation, par l'octroi des moyens aux nouvelles provinces et aux éventuels opérateurs économiques et par l'allègement fiscal. Je pense qu'en évoluant ainsi, on pourra, n'est-ce pas, faire des
choses. Merci beaucoup, Maître Omar. On va prendre lui de l'Oboudi. Lui, vous êtes avec nous à l'Oboudi. Bonjour.
Bonjour, papa. Radio Capi.
Merci beaucoup, lui, et d'avoir appelé. Vous avez suivi Maître Omar qui parlait tout à l'heure de l'interventionnisme étatique, hein, qui passe par deux choses. L'État peut agir en tant qu'entrepreneur et en tant que régulateur. Et aujourd'hui, en tant que régulateur, l'État a l'obligation de prendre de telles mesures, et une mesure qui, et du reste, est fondée selon Maître Omar. Mais de l'autre côté, l'aspect entrepreneur, il a évoqué la corrélation entre développement, production et investissement. Et si nous regardons la réalité en face, on se rend compte que les deux entreprises locales, mises ensemble, ne peuvent pas faire face aux besoins actuellement, qu'il s'agisse des silos ou encore des SINAT. Alors donc, pour dire, c'est vrai qu'il y a des mesures, mais ça passe par d'autres décisions qui pourraient accompagner ces mesures, notamment la défiscalisation de certains produits pour arriver au résultat. Alors vous, vous avez vécu la réalité de la cimenterie de Katanga. Disons, qu'en est-il aujourd'hui, hein? On peut dire que la cimenterie de Katanga, notamment, cette cimenterie reste encore quelque chose.
Bon, ici, quand même, l'État a l'obligation d'aider la population pour diminuer un peu le chômage. Comme ici, la cimenterie est ici, elle a toujours produit des sortes de ciment. Il y a ciment métallurgique, ciment land, et on appelle ciment ordinaire. Bon, le ciment, là, ça a toujours construit des ponts, et plus ordinaire de construction des maisons, mais pour ce moment ici il y a des chômages ici à Louboudi, et puis les gens pour seulement amener les enfants à l'école, c'est tout un problème, et puis les chômages ça continue, et depuis 2007 il y a des problèmes des veuves aussi.
Voilà. Donc on a compris que la machine des gens.
Les pensionnés n'est pas encore payé, il y a les décès. Alors,
merci beaucoup, parce qu'on a compris que la cimenterie de Louboudi est aux arrêts depuis un certain temps, et cela a eu des conséquences énormes, en tout cas sur le plan social. Merci beaucoup. Maître Gabriel, vous êtes à Kinshasa, bonjour et bienvenue.
Bonjour, monsieur J.R. et bonjour à l'invité, mon professeur Grégoire.
Quel est votre avis?
Bon, quant à nous, nous voyons que le monde actuel, comme un village planétaire, au sens du genre, se pratique le prix de mise. Parce que cette décision n'est pas opportune, dans le sens que nous n'avons pas beaucoup d'entreprises locales qui produisent ces produits. Il faut d'abord promouvoir les industries locales pour que les taux de production soient élevés. Et par là, notre gouvernement pourra vraiment entamer cette décision, cette démarche-là de suspendre l'exploitation. Ça prouve que nos entreprises sont incapables, parce que ça doit avoir vraiment la capacité d'exporter, d'importer. Et aussi, ce qu'il faut savoir aussi, et les entreprises qui importent, il y a aussi des entreprises étrangères. Alors, si vous freinez pendant 3 mois ces entreprises-là, c'est contre les droits WADA. C'est vraiment préjudicier vraiment ces entreprises multinationales. Alors, le gouvernement pouvait d'ailleurs encourager, chercher des causes valables, des causes qui pénalisent. Parce que nous avons compris, parce que si nous reculons un peu, et c'est juste le problème qui s'est posé au niveau de nous, parce que on ne paye pas bien, tout ça, tout ça. À cause de l'intérêt privé, vous préjudiciez maintenant la population.
Merci beaucoup, Gabriel, d'avoir appelé de Kinshasa. Pour vous, vous estimez qu'il n'y a pas assez d'entreprises qui produisent notamment le sucre ou encore le ciment et également le bar de fer. Cela ne peut qu'avoir des conséquences très, 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 très négatives. Et par rapport à cette mesure, vous estimez que cela pêche, en tout cas, elle marche à l'encontre donc du droit OADA qui consacre le libre-échange, hein, et aussi de produits au niveau de l'Afrique ou ailleurs. Merci beaucoup. Et vous avez évoqué la réalité de ce qui se passe actuellement à Loufou. Vous estimez que cette décision a été prise suite à ce qu'on a constaté, des réalités vécues au niveau de l'Oufouna, la frontière entre la RDC et l'Angola. Bavon, vous êtes à Boujimaï, vous gardez la ligne et Gervais à Bukavu. Nous allons retrouver notre professeur qui est avec nous dans ce studio. Professeur, c'est vrai, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses qui sont évoquées par cette deuxième série des auditeurs, notamment les droits au Hadar et également le libéralisme ou encore l'interventionnisme de l'État qui, en fait, passe par l'entrepreneuriat ou encore l'État comme régulateur. Et l'État a bien joué son rôle, mais les côtés entrepreneurs, et c'est ce qui pose problème. Là, c'est Omar qui l'a dit, et puis le dernier qui a évoqué notamment la relation entre développement, production et investissement. Quelle est notre réaction, votre orientation que vous pouvez donner aux uns aux autres?
Bon, d'abord, la première chose, c'est que il n'y a pas de décentralisation financière sans impôts attirés sur les effectifs économiques. Donc, s'il n'y a pas d'opérateurs économiques qui se livrent à des activités, il n'y aura pas d'impôts à payer. Donc ça, c'est la première chose en rapport avec la question de la fiscalité. Mmh. Alors, nous avons l'avantage, et ça, c'est la réponse à la question que m'a posée M. Koutou de
Ituri.
Nous avons l'avantage d'appartenir à des zones économiques, des zones d'intégration économique. Comment on peut résoudre le problème? D'abord, une mesure qui est prise au niveau du gouvernement central concerne l'ensemble du pays. Nous avons ce désavantage parfois d'avoir un territoire immense avec plusieurs pays étrangers voisins. Et comme la plupart de ces pays appartiennent aux mêmes zones économiques, le problème peut être résolu par la coopération. Si on constate qu'au niveau national, la production n'est pas suffisante, notamment pour les provinces frontalières, avec l'Ouganda, avec la Zambie, d'avoir par la coopération régionale résoudre le problème. Parce que la fraude n'est pas favorisée que par les Congolais. Puisque à l'étranger, les gens sont convaincus que les Congolais sont désorganisés, ils jouent avec notre désordre interne. Et ils jouent sur ça pour s'enrichir. Donc il y a des intérêts réciproques qu'il faut prendre en considération. Il y a les intérêts de l'État, il y a les intérêts de la population, il y a les intérêts aussi des étrangers qui travaillent avec nous. Vous savez qu'à l'étranger, l'image du Congo n'est pas... c'est parce que vis-à-vis même de sa propre population, un Congolais préfère aider l'étranger et détruire son pays. C'est ça la philosophie de départ. Il faut renverser la tendance. Mm-hmm. C'est la raison pour laquelle je dis, si il y a des sanctions sévères vis-à-vis de tous ces mafieux qui sont dans tous les milieux, il y a moyen d'atteindre des résultats probables.
Oui. Alors, parce qu'il y a un auditeur qui a évoqué également, comme vous, lorsque vous parlez de l'économie populaire, qui doit passer par là, qui doit être fiscalisée.
Oui.
Alors, je me souviens, à l'époque, il y a eu des colloques qui ont été organisés ici, où nous avons accueilli, en tout cas, à RDC, par deux fois d'ailleurs, oui. Michel Rocard, de triste mémoire, donc en fait, qui n'est plus avec nous, une personnalité politique et économique de la France, hein, qui n'est pas le moindre. Vous faites partie d'ailleurs de cet institut Héros Africain de droit économique, il appartient aussi à cet institut. Aujourd'hui, c'est vrai, il est parti. Mais je me dis, pendant ces colloques, on a pu quand même développer certaines théories ou encore certaines pistes de solutions pour arriver au fait à amener l'économie populaire à une économie fiscalisée. Mais alors, on a du mal aujourd'hui, c'est-à-dire après tous ces colloques, à atteindre quand même ces objectifs.
Bon, je suggère d'abord, c'est l'occasion que je voudrais saisir pour rendre hommage à cet homme, à cet intellectuel, qui a été notre premier président, un homme engagé, un homme qui a été très solidaire vis-à-vis de l'Afrique, et c'est l'une des raisons qui a expliqué qu'il ait été le premier président de notre organisation. Il est, à sa mort, décédé avec la fonction de président de notre organisation. Alors, lorsque nous avons organisé en 2009 le colloque sur la problématique du passage de l'économie populaire à l'économie fiscalisée, nous avons bénéficié de son expérience. Et lors de ce colloque-là, il y a eu une intervention pertinente du président Yuma, qui est toujours président de la Fédération des entreprises du Congo, pour voir quels sont les mécanismes qui peuvent permettre au Congo d'avoir progressivement à retrouver une économie fiscalisée, c'est-à-dire une économie légale. Parce que vous voyez, nous vivons dans une économie qui est illégale, parce que les gens ne payent pas d'imposition. Alors, l'une des mesures, c'est la diminution des taux de fiscalisation. Une autre mesure, c'est l'amnistie fiscale. Il y a des mesures comme ça, il faut passer par la voie législative, faire une amnistie fiscale pour que les gens retrouvent les repères et en mettant l'accent sur la conscience qu'ils doivent avoir d'avoir une économie qui fonctionne normalement. Lorsqu'une économie fonctionne normalement, c'est pour le bien des opérateurs économiques qui créent des richesses, c'est aussi le bien pour l'État, parce que l'État, les ressources de l'État proviennent de quoi ? Les ressources de l'État. Les gens ont... On a eu dans ce pays l'idée que les ressources de l'État proviennent des minerais. Or, les minerais, si ce n'est pas l'État qui investit dans les minerais, l'État n'a presque rien.
Mais c'est avec la configuration actuelle, décentralisation, est-ce qu'il ne devait-il pas y avoir aujourd'hui des confusions par rapport à cette décision?
Oui, mais il y a des confusions
exclusives déjà, ça pose problème.
Mais la fiscalité n'est pas organisée. C'est la raison pour laquelle je reviens maintenant à la deuxième conférence que nous avons organisée en 2014 sur l'investissement et la fiscalité. Et je crois, même lors de l'entretien que M. Rocard a eu avec le Premier ministre Matata, il a échangé éventuellement sur cette question. Comment on peut arriver à avoir une fiscalité qui permette aux entreprises de prospérer sans alourdir leurs tâches? Parce que la difficulté que nous avons au Congo, c'est cette fiscalité à faible vitesse. Vous avez la fiscalité nationale avec la DGI, la DGRAD, la DGZR, vous avez des fiscalités provinciales
avec toutes ces directions,
vous savez, ces choses-là n'ont pas été créées dans les règles de l'art. Les directions de chaque province a créées. Mais c'est en rapport avec quoi? D'abord, ce sont les recettes qu'on perçoit là, sont les recettes de l'État. Ce n'est pas des recettes de ces provinces ou des dirigeants de ces provinces. Or, la réalité a fait que les recettes qui ont été perçues par ces multiples directions régionales, encore que ça ne devait pas être le cas, ces recettes-là ont plus profité aux gestionnaires et aux parlementaires, aux populations, qu'à l'État et aux populations.
Voilà, sujet-là. Donc, professeur, nous retenons qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est la mesure, ça rentre dans les cadres normaux de fonctionnement de l'économie d'un pays, de manière normale. Donc, la décision, elle est fondée, mais il y a quelques éléments, quelques paramètres qui rentrent en ligne de compte pour éviter ces effets boomerang qui pourraient déstabiliser.
C'est ça, exactement.
Voilà. Voilà, nous disons merci à tous les auditeurs qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Désolé. En principe, on devait vous accorder la parole avec Gervais. Vous êtes à Bukavu, vous n'avez qu'une partie remise. On va y revenir la semaine prochaine, peut-être, pour voir un peu comment la décision, peut-être après deux mois, pour voir comment les choses vont évoluer. André Mongou avait assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Pierrot et la BJ. Une émission qui vous a été coordonnée et présentée par J.R. Lungembo. On se retrouve demain dans un autre numéro.
Allô? 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 Il ne répond pas?